n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités. C'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures, qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si on faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens. Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous emmène en reportage au musée de la cuivrerie de Cerdon. Après un rachat par le département de l'Ain, il ouvre pour la Toussaint une expérimentation avant la saison 2023 et on a pu le visiter en avant-première. Dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement, le département de l'Ain organise des événements gratuits autour de la parentalité. Interview avec Hélène Bertrand-Maréchal, vice-présidente déléguée à l'enfance et à la famille, et Lucie Potin, responsable du service accueil jeunes enfants parentalité.
Bourque, en bref.
Ce mardi 18 octobre, c'est la grève générale. Des perturbations sont à prévoir dans de nombreux secteurs, les transports, l'énergie, l'éducation ou encore la fonction publique. La CGT et trois autres syndicats demandent des augmentations de salaire notamment. La grève se poursuit aussi dans les raffineries. Le carburant peut encore être difficile à trouver, alors voici un site qui peut être bien utile dans cette période. C'est le www.carburant.gouv.fr, carburant avec un S. Vous pouvez voir si une station est bien approvisionnée et le site est mis à jour régulièrement. Mediapart fait des révélations sur les dépenses de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le président de région, Laurent Wauquiez, aurait dépensé 100 000 euros d'argent public pour organiser un grand repas avec des dirigeants d'entreprises, des sportifs, des artistes notamment. 90 convives en tout ont participé à ce dîner dans un château du Beaujolais. C'était en juin dernier. L'article de Mediapart date du 13 octobre, vous pouvez le retrouver sur leur site. Et depuis sa publication, les élus écologistes ont décidé de saisir la justice pour, je cite, « lever tout soupçon de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêts ».
Radio B, 90 FM.
Une Indinoise remporte le prix Jeune chercheur en cancérologie. Aurore Caro, 25 ans, est la nouvelle lauréate du prix organisé par le comité de l'Ain de la Ligue contre le cancer. Elle a reçu un chèque de 2000 euros. Aurore Caro est ingénieure en modélisation et biostatique à la faculté de médecine de Lyon-Sud. Elle s'est spécialisée dans la modélisation des biomarqueurs cancéreux. À partir de ces marqueurs, on peut déterminer très tôt quel est le meilleur traitement pour le cancer de la prostate et de l'ovaire. À Bourg-en-Bresse, le musée de Brou fête ses 100 ans. Des événements sont organisés d'octobre 2022 à novembre 2023. Il y a notamment une nouvelle exposition permanente sur les sculptures du Moyen-Âge. Vous pouvez venir la découvrir au musée de Brou dans le monastère royal de Brou à partir du 22 octobre. Et le dimanche 27 novembre, vous pouvez aussi suivre une visite commentée à 15h.
L'invité de Radio B.
Du 17 au 23 octobre, le département de l'Ain organise une semaine entière dédiée à la parentalité. C'est dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Pour l'occasion, nous avons rencontré Hélène Bertrand-Maréchal et Lucie Potin au siège du département de l'Ain. Hélène Bertrand-Maréchal, vous êtes vice-présidente déléguée à l'enfance et à la famille au département de l'Ain. Chaque année, à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement, le département de l'Ain propose différents événements gratuits autour du jeune enfant et de ses parents. Quels sont les objectifs de cet événement ?
Alors c'est un événement important qui s'inscrit dans le cadre de nos missions de protection maternelle et infantile pour pouvoir accompagner au mieux les parents et les futurs parents dans les premiers pas avec leurs enfants notamment.
Donc Lucie Potin, je suis responsable du service accueil du jeune enfant parentalité au département de l'Ain. Oui, effectivement, l'objectif c'est d'aller aussi vers les usagers qui viennent aussi vers nous dans les différents lieux et de leur apporter répondre à toutes les questions que peuvent se poser des futurs ou de jeunes parents. Je pense que quand on est parent, on a plein de doutes, plein d'incertitudes, plein de fragilités aussi, donc pouvoir à la fois partager puis avoir des professionnels qui répondent de façon éclairée du coup aux questions qu'on peut se poser.
Donc ce n'est pas qu'autour de l'allaitement comme le nom l'indique.
Non, justement, ça s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, mais on a souhaité, nous, depuis longtemps, déjà avoir une approche beaucoup plus globale. Voilà, d'où la thématique autour de bébé, pour pouvoir aborder l'ensemble des questions et des interrogations que peuvent se poser les parents. Ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin parfois d'être conseillés. On est pleinement dans notre rôle de soutien à la parentalité, d'accompagnement. Voilà, les questions peuvent d'ailleurs être très très diverses, hein. L'allaitement bien sûr, mais aussi le biberon, ça peut être aussi le portage, le sommeil, les pleurs des enfants, pourquoi mon enfant pleure, quoi faire pour que ça aille mieux, l'alimentation, la diversification, voilà, quand intégrer la diversification alimentaire. Vraiment, les questions peuvent être très très variées, les problématiques, voilà, et très différentes, et ce sont vraiment des occasions d'échanges, de rencontres, des ateliers particulièrement vivants, animés avec uniquement des professionnels. Alors, ce sont nos équipes professionnelles engagées, hein, des sages-femmes, des puères, des médecins, etc., et en lien aussi avec les très nombreux partenaires qui sont engagés dans cette action avec nous. Donc, une présence forte sur les territoires, sur tous les territoires. Ça aussi, c'est très important pour nous de nous inscrire dans la proximité. Donc, il y a 17 lieux qui sont ouverts avec des ateliers, des actions, des conférences proposées. Et un lien donc voilà, très fort avec les habitants, avec les professionnels et les partenaires qui sont engagés avec nous.
Donc, vu que le titre peut peut-être empêcher les mamans qui n'ont pas choisi d'allaiter de venir, on peut rappeler que c'est pour toutes les mamans, tous les parents finalement.
Effectivement, toutes les mamans et tous les papas, bien sûr, sont les bienvenus, alors futurs parents ou voilà, parents déjà actuellement. Ils peuvent venir avec leur bébé, c'est important, c'est un lieu qui est, voilà, l'ambiance est très cocooning, on va dire, il ne faut pas avoir peur que notre enfant soit exposé à des bruits en tout genre, c'est un endroit vraiment où on peut échanger de façon très très calme, on peut aussi rencontrer d'autres parents qui sont aussi là avec les enfants et se posent les mêmes questions, on peut aussi avoir des temps un peu à l'écart si on a des questions plus personnelles sur lesquelles on ne souhaite pas partager avec d'autres. Voilà.
Et effectivement, la thématique de cette semaine-là, elle est consacrée à la valorisation et à la promotion de l'allaitement maternel. Les actions que nous souhaitons mettre en place et que nous mettons en place sont bien plus larges et ce sont évidemment des temps d'échange et de rencontres qui sont ouverts à tous les parents, et y compris ceux bien sûr et celles qui ne souhaiteraient pas ou qui ne pourraient pas allaiter leur enfant. Parfois même aussi ce sont des interrogations, parfois c'est par méconnaissance, parfois c'est et on peut avoir besoin d'échanger, de conseils et être amené à se réinterroger aussi sur ses propres pratiques. En tout cas, c'est une jolie porte d'entrée, l'allaitement, qui peut aboutir aussi. C'est pour ça que c'est intéressant, effectivement, de venir aussi avec son bébé, parce qu'il y a aussi parfois des ateliers très concrets sur notamment le portage des bébés avec une écharpe. Donc, on peut apprendre concrètement tout ce qui contribue à renforcer le lien entre l'enfant et ses parents, son père et sa mère. Tout ce qui contribue à avoir des temps de proximité et d'intimité entre les deux nous semble important à évoquer et du coup à transmettre.
Donc une multitude d'ateliers, dont celui du portage. Est-ce que chacune de vous peut en choisir un qu'elle a particulièrement aimé ou qu'elle veut mettre en avant ?
Alors on a évoqué le portage, il y a aussi le massage, toucher massage du bébé aussi, qui est un grand succès, généralement ça plaît beaucoup aux parents et à leur bébé. D'autres thématiques qui sont abordées aussi, il y a également des ateliers par rapport à l'environnement, c'est aussi une préoccupation des jeunes parents. Sur Bourg, il y aura également des initiations aux gestes de premier secours, c'est aussi une inquiétude des parents, savoir comment réagir s'il y a un accident qui a lieu.
Alors moi, je compléterai aussi sur un sujet d'actualité, on va dire, puisque on sait que la période de crise sanitaire, malheureusement, a été un accélérateur de ce que je vais appeler, mais une dérive. On a des ateliers qui sont consacrés à l'usage des écrans, avec des vraies problématiques en termes de santé, de développement des enfants. En raison de ces écrans, quand les très jeunes enfants sont exposés de façon trop précoce aux écrans, il y a un vrai risque. Donc sans juger, sans critiquer, ce sont autant d'ateliers aussi qui permettent d'aborder ces questions-là.
Et donc au niveau des parents, donc vous en rencontrez souvent, j'imagine, est-ce qu'il y a des besoins qui remontent souvent ?
Alors c'est un besoin de conseil, de réassurance aussi. C'est vrai que les parents trouvent beaucoup d'informations sur Internet qui sont parfois contradictoires. Et ça, c'est d'avoir vraiment des conseils adaptés à leur situation en fonction de leurs éventuelles problématiques. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut mettre en avant, c'est aller à la rencontre de professionnels du département et de professionnels partenaires du coup qui seront présents.
Et donc il y a un rapport qui est sorti sur la santé périnatale et qui indique que les femmes enceintes ont une santé mentale qui se dégrade par rapport à, donc à une autre étude qui avait eu lieu en 2016. Est-ce que vous sentez que des femmes enceintes sont un peu perdues? Est-ce que vous sentez que moralement ça va pas trop?
Je pense qu'il y a une fragilité générale au niveau de la population, au niveau de différents publics. Donc les professionnels de PMI sont bien sûr à l'écoute. Hein. Il ne faut pas hésiter pour les personnes qui se sentiraient très fragiles. On a le droit d'être enceinte et d'être fragile. Voilà. Donc ne pas hésiter à contacter les équipes de PMI, les sages-femmes qui peuvent intervenir avant même la naissance de l'enfant, bien sûr en anténatal. Et également du coup les puéricultrices de PMI, on a le droit de se poser plein de questions et il faut surtout chercher les réponses. Il ne faut pas rester avec ces questions.
Et justement, comment les parents peuvent aller vers vous, vers le département, toute l'année, au-delà de cette semaine dédiée?
Alors le mieux, c'est d'appeler le 3001, du coup, qui donne toutes les informations, ou d'aller sur le site 1.fr, donc www.ain.fr. Donc on a une trentaine de lieux sur lesquels les parents peuvent venir à notre rencontre, donc vraiment qui n'hésitent pas.
Quelles actions sont mises aussi en place au quotidien par le département pour accompagner les jeunes parents?
On organise par exemple des dépistages de santé dans les écoles pour les enfants de 3 à 4 ans, où on peut déceler des troubles du comportement, on peut déceler des problématiques de santé, et le lien peut être fait avec les parents. Après, on a effectivement un entretien quand on est enceinte de son premier enfant, un entretien avec une sage-femme. Voilà, donc c'est dès que la grossesse est déclarée, il y a un certain nombre d'actions qui se mettent en place et de dispositifs pour répondre aux interrogations et accompagner au mieux les parents, les futurs parents dans leur parcours.
Ces événements autour de la parentalité sont gratuits. Ils ont lieu du 17 au 23 octobre dans une vingtaine de lieux différents partout dans le département. Toutes les infos sont sur le site smam.1.fr. Et la soirée de clôture aura lieu à Bourg-en-Bresse le 21 octobre à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté avec un spectacle gratuit fait par la Diesel Compagnie. C'est à partir de 19h.
Ça fait très plaisir de voir autant de cyclistes réunis à Bourg cet après-midi.
Là, on est sur des arbres qui ont un peu plus de 100 ans, 100-120 ans.
En reportage avec Radio B.
C'est enfin l'ouverture du musée de la cuivrerie de Cerdon. Après un rachat en 2018 par le département de l'Ain, le lieu devient un musée 2.0 avec de nombreux dispositifs de réalité virtuelle et augmentée pour mieux comprendre le travail du cuivre. Un projet ambitieux qui a coûté plus de 5 millions d'euros. Il avait d'ailleurs retenu l'attention de la mission Stéphane Bern avec le Loto du patrimoine, un dispositif qui permet de récolter des fonds pour entretenir les monuments. Cette première ouverture pour les vacances de la Toussaint sera expérimentale, un moyen de se préparer pour la saison 2023. Nous avons pu découvrir la nouvelle scénographie du musée en avant-première. Suivez-nous.
Bonjour, je m'appelle Lucie Bergerie, je suis chargée de communication et de marketing au GIP Cerdon-Vallée de l'Ain. Je suis en alternance actuellement. Donc le GIP, c'est le territoire Rive de l'Ain, Pays du Cerdon, qui comprend 14 communes, mais aussi 3 sites. La cuivrerie de Cerdon, qui réouvre le 22 octobre et pour les 2 semaines de vacances de la Toussaint. Le musée des soirées Bonnet à Jujurieux, ainsi que l'île Chambaud à Haute-Cour.
Première salle, qu'est-ce qui attend les visiteurs ici?
Alors ici, on retrace l'histoire de la cuivrerie depuis son ouverture par la famille Main, par Monsieur Main, et puis les guerres, l'ère industrielle, le développement de la cuivrerie. Donc voilà, on a une maquette là où il y a un rétroprojecteur qui va mettre tout Cerdon. Et avec un petit film qui est projeté en face, on va pouvoir retracer toute l'histoire de Cerdon selon les époques. Voilà, c'est scénarisé. Et puis, on a des petites tablettes qui vont permettre de voir en 3D, voir les lieux et se balader dans la vallée de Cerdon.
Bonjour, Fanny Aznar, je travaille à la direction du patrimoine et des sites culturels et j'ai coordonné le chantier scénographique, donc toute la réinstallation du parcours dans la cuivrerie.
Donc, est-ce que vous pouvez nous résumer un peu l'histoire de cette cuivrerie ?
Alors, l'histoire de la cuivrerie, elle commence par l'installation en fait, d'industriels à Cerdon qui vont travailler le cuivre dans les années 1836. Pas sur ce site-là, mais rapidement, ils vont arriver dans la cuivrerie qu'on connaît aujourd'hui en 1867. Donc depuis 1867, on a une famille d'industriels qui a créé une entreprise qui s'appelle Main et Fils. Et cette entreprise-là, elle va perdurer à la fin du 19e siècle et dans une grande partie du début du 20e siècle, avec plein d'évolutions successives. Donc, dans les évolutions importantes qu'on peut citer, on a bien sûr les premières presses à emboutir, puisque ça, c'est l'industrialisation du processus de conception des objets en cuivre. Donc ça, c'est une date importante, c'est 1875. Fin 19e siècle, la première presse à emboutir. On va avoir une deuxième presse qui est vraiment une évolution de cette première presse en 1924. C'est la presse qu'on appelle la presse américaine, qui là va encore être plus rapide en exécution, plus poussée. Hein, donc c'est une amélioration de la technique.
Et nous partons donc à la découverte de cette presse américaine, une machine impressionnante. C'est Théo Blaise Caligaro, régisseur et médiateur technique sur la cuivrerie, qui maîtrise le sujet. Il nous explique.
Alors là, on est devant ce qu'on appelle la presse américaine. Donc, c'est une presse à emboutir de la marque Bliss qui a été installée ici en 1924. Donc, pour augmenter leur production, la première presse ne permettait pas de faire des emboutissages très profonds. Et là, sur cette presse-là, justement, on peut partir sur beaucoup plus profond, donc des petits chaudrons, par exemple, des casseroles, etc. Bon, après, c'est beaucoup, beaucoup plus varié que ça, ce qu'on peut faire avec cette machine. Mais c'était son gros avantage, en tout cas. Et surtout, on a une production qui est plus rapide. On est à, normalement, si je ne me trompe pas, une quinzaine de coups par minute, ce qui est énormément plus par rapport à la première presse, qui est beaucoup plus ancienne.
Théo peut aussi faire fonctionner des anciennes machines et il fera même des ateliers pour montrer comment façonner des objets à partir du cuivre. Et maintenant, on continue la visite dans une salle très immersive.
On arrive dans la forge, qui est la sixième pièce. Donc là, pareil, ça a été tout restauré. On a même le droit au bruit. Donc pareil, là, c'est là où ils venaient chauffer le cuivre, qu'ils le tournaient. Alors là, on va avoir du matériel. Ils vont pouvoir regarder à travers les lunettes. Et ils vont pouvoir revoir une scène tournée. Donc, il y a eu des acteurs qui sont venus. On a tourné une scène où ils retravaillaient le cuivre. Et ils vont pouvoir voir ça à travers les lunettes. Le but, c'est vraiment que ce soit un site immersif et qu'ils se rendent compte vraiment de ce qu'était le travail du cuivre à l'époque.
Après, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on va avoir une activité jusqu'en 1973 pour la première vie de la cuivrerie. Et puis après, on aura une reprise plus tard avec une ouverture au public et donc une première transition vers la nouvelle vie de la cuivrerie qui commence là cette année, jusque dans les années 2010.
La fin de la cuivrerie, c'est parce qu'il n'y avait plus besoin. Enfin, c'est quoi l'évolution historique ?
Il y a plein de facteurs combinés qui expliquent l'arrêt de l'activité. Le facteur quand même important, c'est que sur le marché arrive le plastique. Et la fabrication du plastique, c'est peu cher, c'est très rapide. Et donc forcément, ça va supplanter les objets traditionnels construits en cuivre. La cuivrerie a vécu ça. Et après, il y a aussi tout simplement le contexte industriel global qui change, hein, mondial aussi, bien sûr, avec l'émergence de nouveaux pays qui vont aussi acquérir ces techniques-là. Et donc, peu à peu, la fabrication française disparaît.
Et on poursuit notre visite dans un tout autre pays.
Là, c'est allumé, tout rouge. Donc là, on est dans la salle Tomiota. Donc c'est la salle qui retrace le parcours avec le Japon.
Alors ça, c'est vraiment l'histoire un peu folle de cette cuivrerie. Il se trouve que, en fait, donc à la fin du 19e siècle, les Japonais veulent moderniser leur filature, c'est-à-dire les usines qui vont produire de la soie, donc tirer le fil du verre à soie et produire le fil qu'on connaît pour faire des tissus. Et pour moderniser leurs usines, ils vont faire appel à un ingénieur français qui s'appelle Paul Brunat, Et ils vont le charger, ils vont le missionner, ils vont lui dire « Nous, on veut produire un fil d'exception, on veut améliorer tout le processus, débrouille-toi, il faut trouver les solutions. » Lui, il va en France essayer de chercher les meilleurs savoir-faire et il va tomber sur l'entreprise Main et Fils, puisqu'elle produit déjà énormément de matériel pour les filatures françaises, notamment les grandes filatures du Gard qu'on connaît très bien. Et il va donc repérer ce savoir-faire et il va dire c'est quelque chose qui fonctionne. Les machines à tirer le fil ont déjà été installées à Jujurieux, tout proche, à l'usine des Soieries Bonnet. On sait que c'est performant. Donc il va proposer au gouvernement japonais d'acquérir 200 machines à filer la soie et il les commande chez Main et Fils à Cerdon. Voilà. Donc là, début de l'histoire, les bassines sont produites ici. Et chose complètement folle à imaginer pour l'époque, Main et Fils va envoyer un de leurs ouvriers, Jules Chatron, qui n'avait jamais sans doute quitté sa région de Cerdon à la fin du 19e siècle. Il va partir en bateau, il va aller jusqu'à Tomioka au Japon. Pendant un an, il va superviser l'installation dans l'usine de ces machines à filer fabriquées à Cerdon.
Le Japon avait commandé à la cuivrerie de Cerdon 300 machines de dévidage et de filage pour la soie à la fin du 19e siècle. Et c'est notamment ce lien avec le Japon qui a aussi poussé le département à racheter la cuivrerie. Une délégation du Japon est même venue début octobre pour découvrir en avant-première le musée. Et en tout, dans ce musée, il y a une dizaine de salles à découvrir. En voilà juste quelques-unes. On vous laisse venir visiter le musée de la cuivrerie de Cerdon entre le 22 octobre et le 6 novembre pour son ouverture expérimentale. La visite se fait en autonomie et pour information, on ne peut pas se garer devant le musée, sauf pour les personnes à mobilité réduite. Il faut donc privilégier le parking de la mairie, par exemple, et marcher quelques minutes pour atteindre le musée. Le prix d'entrée est de 8 euros pour les adultes et 6 euros pour les enfants jusqu'à 12 ans. À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute et on se retrouve lundi prochain à 18h sur le 90 FM.
On n'ira pas aller chercher les enfants handicapés pour faire des activités, c'est nous, parents, avec des associations ou d'autres structures qui devons faire le nécessaire.
Il n'y a rien à faire pour moi. Du coup, on propose un accueil jeune. Tu peux venir ici pour te détendre ou pour t'amuser.
Ce que j'aime dans la lecture, c'est que quand on met de l'émotion dedans, c'est comme si... On faisait aussi du théâtre.
Il y a pas mal de personnes qui pensent comme nous sommes des étrangers. Il y a plus de négativité que de positivité en nous. On est venu ce soir pour montrer notre face positive.
On passe du stade d'un combat féministe à vraiment à un combat sociétal.
À vous, les Burgiens.
Présenté par Inès Lombartet et Audrey Radondi.